إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، on a terminé dans le cours d'hier les questions liées à la prosternation. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala a dit « Se redresser de la prosternation ». Et le fait de se redresser de la prosternation, c'est un des piliers de la prière. Car cela fait partie intégrante de la prière, et la prière ne peut pas être valide sans cela. Il a donc dit rahimahullah, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, se redresser de la prosternation en levant la tête tout en disant « Allahu Akbar ». Allah est le plus grand. Donc ce takbir, il fait partie de ce que l'on appelle takbiratul intiqal, les takbirs de transition. Et comme on l'a mentionné précédemment, ces takbirat, elles sont obligatoires. C'est donc une obligation, lorsque tu te relèves pour la prosternation, de prononcer ce takbir. Ensuite, il dit, rahimahullah, en outre, il a ordonné à celui qui a mal accompli sa prière de faire pareil que lui en lui disant « La prière d'une personne n'est pas complète tant qu'elle ne se prosterne pas et que chaque articulation se soit immobilisée. » Par la suite, qu'elle dise « Allahu Akbar ». Donc ceci est une preuve que ce takbir est obligatoire. Ensuite, elle lève sa tête jusqu'à ce qu'elle se stabilise en position assise. Et ceci est une preuve également que la station assise entre les deux prosternations est un des piliers de la prière. Il dit, rahimahullah, et parfois il levait les mains en prononçant le takbir. Donc le fait de lever les mains lors de ce takbir, cela est recommandé seulement de temps en temps. Ensuite, le shaykh, rahimahullah ta'ala, va nous décrire la manière de s'asseoir durant l'assise entre les deux prosternations. Et cette position donc, elle est appelée al-iftirash. Il dit, rahimahullah, par la suite, il étendait son pied gauche à plat sous lui et s'asseyait dessus posément. C'est-à-dire que son pied est étalé, la partie supérieure de son pied est sur le sol. Et il est assis sur son pied gauche. Il a même ordonné à celui qui a mal accompli sa prière de le faire, en disant « Lorsque tu te prosternes, touche bien le sol avec tous tes membres, puis quand tu te redresses, assieds-toi sur ta cuisse gauche. » Ensuite, il dit, rahimahullah, « En même temps, il soulevait son pied droit sur les orteils, c'est-à-dire qu'il tenait son pied droit approximativement perpendiculaire au sol, et il dirigeait les orteils vers la qibla, c'est-à-dire que ses orteils étaient pliés et orientés vers la qibla. » Donc ceci est la manière légiférée de s'asseoir entre les deux prosternations. Et également, on verra qu'elle est légiférée lors de l'assise du premier tashahhud, comme on le verra certainement dans le cours de demain, incha'Allah ta'ala. Ensuite, il dit, rahimahullah, la position assise, al-iqa'a, entre les deux prosternations. Donc ici, il nous montre que de temps à autre, il est légiféré une autre manière de s'asseoir entre les deux prosternations. La base donc, c'est al-iftirash, tel qu'on vient de le voir, que tu t'appuies sur ton pied gauche qui est à plat sur le sol, et tu relèves ton pied droit en pliant tes orteils et en les dirigeant en direction de la qibla. Mais il y a une autre manière de s'asseoir qui s'appelle al-iqa'a. Il dit, rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parfois s'asseyait sur ses talons et la plante de ses pieds redressée. C'est-à-dire qu'il dressait ses pieds avec les orteils en direction de la qibla, comme la position des pieds lorsque tu es prosterné. Il les laissait ainsi se redresser et s'asseyer sur ses talons. Donc cette position, elle est rapportée seulement lors de l'assise entre les deux prosternations. Elle n'est donc pas légiférée lors des autres assises. Et le shir, rahimahullah, comme vous le voyez, il dit en note de bas de page, « Je dis, cette manière de s'asseoir est différente de celle qui est interdite, comme nous allons le voir dans le chapitre de la position assise pour réciter le teshahoud. » En effet, on a vu dans un cours précédent qu'il y a une assise qui est interdite, c'est l'assise du chien. Donc le shir, rahimahullah ta'ala, il a précisé que cette assise est différente. Et on reviendra dessus lorsque nous serons au chapitre de la position assise pour réciter le tashahhud, incha'Allah ta'ala. Ensuite, il dit, rahimahullah, l'obligation de s'asseoir posément entre les deux prosternations. Et ceci fait partie des piliers de la prière. C'est-à-dire que tu observes un temps d'immobilité durant cette assise. Car comme on l'a vu, la quiétude, le fait d'observer un temps d'immobilité, cela est un pilier de la prière dans l'ensemble des postures obligatoires. Et parmi elles, l'assise entre les deux prosternations. Et le temps minimum durant lequel tu dois rester assis dans cette position, c'est le temps nécessaire à prononcer la formule de rappel obligatoire durant celle-ci, qui est ici « Rabbi ghfirli » au moins une fois. Et le reste est surrogatoire, comme on va le voir dans le chapitre suivant. Il dit donc, rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam restait un moment immobile de telle sorte que chaque os revenait à sa place. Ceci nous montre donc qu'il est légiféré, durant cette assise, de marquer un temps d'arrêt. Et il a ordonné à celui qui a mal accompli sa prière de le faire, en lui disant « Votre prière n'est complète que si vous faites cela ». Donc ceci nous prouve que la prière, elle ne peut être valide si tu n'observes pas ce temps d'immobilité durant cette assise. Car comme on a dit, c'est un pilier de la prière. On voit donc à travers cela l'erreur de nombre de personnes qui, lorsqu'ils prient, ne prennent même pas le temps de réellement s'asseoir. Mais tu le vois se relever de la prosternation, il n'a même pas fini de s'asseoir qu'il est déjà en train de repartir à sa deuxième prosternation. Celui-ci n'a pas observé la quiétude. Il n'a pas observé de temps d'immobilité durant cette assise qui est un des piliers de la prière. De ce fait, sa prière n'est pas complète, c'est-à-dire qu'elle est invalide. Wallahu al-musta'an. Ensuite, il dit, rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam restait dans cette posture aussi longtemps qu'il était resté en prosternation. Donc comme on l'a vu précédemment, le temps de l'inclination, le temps de la station debout après t'être relevé de l'inclination, le temps de la prosternation et le temps de l'assise entre les deux prosternations, toutes ces positions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam restait dans celle-ci d'un temps d'une durée égale. Et celle-ci était proportionnelle au temps durant lequel il était resté à réciter le Coran. Ensuite, il dit, rahimahullah, parfois il restait assis dans cette position tellement longtemps qu'une personne aurait pu penser qu'il avait oublié. C'est-à-dire que tellement il prolongeait cette assise que tu aurais pu te dire qu'il avait oublié, c'est-à-dire où il en était dans sa prière. On voit dès que la différence entre la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la prière de beaucoup de personnes aujourd'hui, wallahu al-musta'an. Ensuite, il dit, rahimahullah, les invocations à dire entre les deux prosternations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans cette posture, Allahumma ghfirli, et dans une autre version, Rabbi ghfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, wahdini, wa'afini, warzuqni. Ô Allah, et dans une autre version, ô mon Seigneur, pardonne-moi, accorde-moi ta miséricorde, guéris-moi, élève-moi en degré, guide-moi, protège-moi et accorde-moi ma subsistance. Et parfois il disait, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, Seigneur pardonne-moi, Seigneur pardonne-moi. Il disait cette invocation pendant la prière de nuit. Donc comme on a dit, le minimum obligatoire à prononcer durant l'assise entre les deux prosternations est de dire au moins une fois, Rabbi ghfirli, ô mon Seigneur, pardonne-moi. Et le mieux est de le répéter plusieurs fois. Que tu répètes plusieurs fois cette parole, de sorte à ce que cette assise soit aussi longue que ta prosternation et ton inclination et ainsi de suite. Et également, tu peux prononcer cette formule de rappel que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a cité. Allahumma ghfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, wahdini, wa'afini, warzuqni. Il est donc recommandé pour le musulman de faire des efforts pour mémoriser cette invocation à prononcer durant cette assise. Et certains parmi les gens de science ont même mentionné qu'il était permis durant cette assise d'invoquer le pardon et la miséricorde en faveur de ses parents ou l'ensemble des musulmans et des musulmanes. Et concernant sa parole, il disait cette invocation pendant la prière de nuit. Donc on a vu que la base est que ce qui est confirmé dans la prière surrogatoire est légiféré également dans la prière obligatoire. Et le cheikh rahimahullah ta'ala l'a lui-même dit dans la note de bas de page, comme vous pouvez le voir dans la note 4. Où il dit, rahimahullah, ceci ne contredit pas le fait qu'il est autorisé de prononcer ces invocations pendant la prière obligatoire, parce qu'il n'existe pas de différence entre la prière obligatoire et la prière surrogatoire. Ensuite, il a dit, rahimahullah, ensuite, il prononçait le takbir et se prosterner pour accomplir la seconde prosternation. Donc après cette assise, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prosternait une seconde fois. Et cette seconde prosternation, elle fait également partie des piliers de la prière. Elle fait partie intégrante de la prière et la prière ne peut pas être valide sans elle. Et le takbir que tu prononces en te prosternant, c'est un takbir qui est obligatoire comme les autres takbirs de transition. Il dit, rahimahullah, il a ordonné à celui qui a mal accompli sa prière de faire cela. C'est-à-dire de prononcer le takbir et de se prosterner une seconde fois. En effet, après lui avoir ordonné de rester assis immobile un moment, entre les deux prosternations, comme cela a été mentionné précédemment, il lui a dit, puis tu diras, Allahu Akbar, Allah est le plus grand, puis prosterne-toi jusqu'à ce que tes articulations soient immobiles dans cette position, puis fais la même chose dans toute ta prière. Ensuite, il dit, rahimahullah, de temps en temps, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, levait les mains durant ce takbir. Donc, comme on a dit, cela est recommandé de temps à autre. Ensuite, il dit, rahimahullah, il faisait la même chose dans cette prosternation que ce qu'il a fait dans la première. C'est-à-dire que tout ce que l'on a vu concernant la première prosternation, concernant la manière de se prosterner, la manière de poser les mains, ainsi que les formules de rappel à prononcer, cela est également légiféré pour la deuxième prosternation qui est identique à la première. Puis il relevait la tête en prononçant le takbir. Ensuite, il se relevait et il prononçait le takbir et ce takbir est également un takbir qui est obligatoire. Ensuite, il dit, rahimahullah, il a ordonné de faire cela à celui qui a mal prié. Il lui a dit, après lui avoir enjoint de se prosterner pour la seconde fois, comme cela a été mentionné. Puis on lève la tête en prononçant le takbir. Et il lui a dit, puis procède de la même façon dans chaque inclination et chaque prosternation. Si tu as accompli tout cela, ta prière sera complète. Mais si tu en enlèves quoi que ce soit, ta prière sera alors incomplète. Et parfois, il levait les mains. Donc ensuite, après cela, tu te relèves pour accomplir la deuxième unité de prière. Mais avant de te relever, il y a quelque chose qui est légiféré, et c'est ce qu'on appelle la posture de repos. Jalsatul istiraha. Le shir, rahimahullah ta'ala, a donc dit, par la suite, il revenait un petit moment assis, en s'asseyant sur son pied gauche, et en gardant l'équilibre de sorte que chaque os revienne à sa place. Donc avant de se relever pour la deuxième unité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'asseyait d'une courte assise que les gens de science appellent la posture du repos. Jalsatul istiraha. Et il s'asseyait pour cette assise de la même manière que l'on s'assoit entre les deux prosternations. C'est-à-dire comme on le voit dans le hadith en s'asseyant sur son pied gauche. Et les gens de science ont mentionné que cette assise est recommandée lorsque tu vas pour te relever pour la deuxième unité ou pour la quatrième unité de prière. Et celui qui ne le fait pas, sa prière, elle est valide. Toutefois, il s'est privé d'une récompense et de la mise en pratique d'une sunna. Et il n'y a pas de formule de rappel légiférée à prononcer durant cette assise. Ensuite, il dit, rahimahullah, le fait de céder de ces deux points en se relevant pour l'unité suivante. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se levait pour la seconde raka'a en s'appuyant sur ces deux points posés à même le sol. Donc, ce qui est écrit ici, sur ces deux points posés à même, vous pouvez le mettre entre parenthèses car c'est un ajout du traducteur. Mais il suffisait ici de traduire le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait pour la seconde raka'a en s'appuyant sur le sol. Et ceci est une sunna confirmée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quant à la manière de s'appuyer sur le sol, elle nous est décrite dans le second hadith. Il dit rahimahullah, il prenait appui sur ses poings pour se lever, comme s'il pétrissait le pain. Donc on voit à travers ce hadith que la manière de poser les mains pour se relever en s'appuyant sur le sol, elle nous est décrite. Toutefois, les gens de science ont divergé quant à l'interprétation de ce qui est décrit dans ce hadith. Est-ce que l'on ferme les poings et on s'appuie sur ceux-ci pour se relever, ou alors est-ce qu'on pose les paumes des mains au sol? Et ces deux avis sont mentionnés par les gens de science qui, comme on a dit, ont divergé sur la compréhension et sur l'interprétation de ce qui est mentionné dans ce hadith. C'est donc une question sur laquelle on ferait preuve de souplesse et qui ne doit pas être cause de divergence et de discorde entre les musulmans. Ensuite, il dit, rahimahullah, lorsqu'il se levait pour la seconde raka'a, il commençait par réciter louange à Allah, alhamdulillah, c'est-à-dire surat al-fatiha, sans marquer un temps de silence. Donc on voit qu'une fois levé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il recommençait à réciter surat al-Fatiha. Et il nous est précisé ici qu'il ne marquait pas de temps de silence. C'est-à-dire contrairement à la première unité de prière, où il observait un moment de silence durant lequel il prononçait l'invocation d'ouverture, comme on l'a vu précédemment. Mais pour la deuxième unité, ainsi que celles qui suivent, il commençait directement par réciter surat al-Fatiha. Il dit, rahimahullah, il accomplissait cette seconde unité exactement de la même façon que la première. C'est-à-dire que dans cette unité de prière, il accomplissait tout ce qu'il avait accompli durant la première unité. À l'exception de certaines choses qui sont takbirat al-ihram, le takbir de sacralisation, celui par lequel on entre en prière, il n'a pas lieu d'être étant donné que tu es déjà en prière. L'invocation d'ouverture qui n'est légiférée que pour la première unité de prière. Et certains savants ont dit également al-isti'adha, le fait de dire a'udhu billahi as-sami'i al-'alimi minash shaitani ar-rajim. Comme on a vu précédemment, certains parmi les savants ont dit que cela est légiféré seulement lors de la première unité. Mais si tu le fais à chaque unité, avant de réciter la Fatiha, alors il n'y a pas de mal en cela, Inch'Allah ta'ala. Il dit donc, rahimahullah, il accomplissait cette seconde raka'a exactement de la même façon que la première, sauf qu'il veillait à ce que la seconde soit plus courte que la première, comme nous l'avons mentionné ci-dessus. C'est-à-dire comme nous l'avons vu lors des chapitres sur la récitation du Coran dans les différentes prières après surat al-Fatiha. Ensuite, il a dit, rahimahullah ta'ala, l'obligation de réciter la Fatiha à chaque raka'a, à chaque unité de prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à celui qui avait mal accompli sa prière de réciter la Fatiha dans chaque raka'a. Puis, après lui avoir enjoint de la réciter dans la première raka'a, il lui a dit, puis fais de même dans toute ta prière, et dans une autre version, dans chaque raka'a. Par ailleurs, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, à chaque raka'a, il y a une récitation. On voit donc à travers ces hadiths qu'il est obligatoire pour le prieur de réciter la Fatiha à chaque unité de prière. Car comme on l'a vu, il n'y a pas de prière pour celui qui ne récite pas la Fatiha. Et la récitation de la Fatiha, c'est un pilier de la prière, sans quoi la prière ne peut pas être valide. Et on a déjà développé ce sujet dans les chapitres précédents. On va donc s'arrêter là pour ce soir et on continuera dans le cours de demain. Inch'Allah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك